Alors, comme on vous avait déjà mentionné, aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur le ciel et l'enfer. Et alors, notre première leçon va être sur l'enfer et le titre que j'ai donné au message d'aujourd'hui, « L'enfer, l'urgente nécessité d'en parler ». Alors, on va regarder, on voit au moins trois raisons pour lesquelles on se doit de parler de l'enfer. La première, à cause de son importance intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire importance en soi. En soi, c'est une doctrine qui est hautement développée dans les Saintes Écritures. C'est assez surprenant de, quand on lit des personnes qui ont étudié le sujet, de se rendre compte que Dieu et Jésus-Christ, dans les Saintes Écritures, parlent plus de l'enfer que du ciel. Bizarre. Alors, ça nous dit que c'est important. Si le Seigneur a jugé de mettre autant d'importance sur le sujet, c'est très certainement parce qu'il voulait qu'on soit averti de ces choses-là. La deuxième raison, donc son importance est la première. La deuxième, c'est l'incrédulité qui submerge le monde. Actuellement, je ne sais pas si vous avez, sûrement que vous avez déjà voulu partager avec les gens, on ne peut pas leur parler de salut ou d'être sauvé, parce que les gens pourraient vous dire « sauvé de quoi? » Alors si, je pense que quand on annonce le salut, il faut d'abord que les gens savent qu'ils sont perdus, qu'ils sont condamnés, et que s'ils décèdent sans s'être réconciliés avec Dieu, c'est l'endroit dans lequel ils s'en vont. Ils s'en vont. Alors, l'incrédulité qui submerge le monde, n'importe qui a déjà le moindrement essayé de communiquer l'Évangile à quelqu'un, sait que bien souvent, c'est reçu avec moquerie. Alors, quand on dit « submerge », ça veut dire que ça nous... Quand on plonge, on est submergé par l'eau. On est vraiment, aujourd'hui, entouré par l'incrédulité. De toutes sortes de manières. L'incrédulité qui vient du monde extérieur et l'incrédulité qui vient aussi de certains évangéliques qui commencent à promouvoir l'idée que l'enfer, c'est quelque chose soit de faux ou soit que c'est pas selon ce que les Écritures disent. Alors, une des raisons, première, son importance. Deuxième raison, on est submergé par l'incrédulité et ça, il faut corriger ça. Et la troisième, c'est à cause du plus profond des péchés de l'homme qu'on pourrait appeler un beau grand mot, mais on va vous l'expliquer, l'anthropocentricité. Qu'est-ce que ça veut dire anthropocentricité? Anthropo, c'est l'homme centré. Autrement dit, aujourd'hui, tout de la société est centré sur l'homme. Ou on pourrait prendre un autre mot, l'humanisme. Il y a beaucoup d'humanisme partout. Alors, l'homme est au centre de toute chose, au lieu que ce soit Dieu. Ils ont placé l'homme au centre. Alors, c'est pour ces trois raisons-là qu'on a besoin aujourd'hui de nous replonger, de réexaminer ce que les Écritures disent sur l'enfer. C'est un sujet extrêmement important. Parce que ça a des implications très importantes et très pratiques sur nos vies de tous les jours. Si vous étudiez n'importe quelle vie de grand pasteur, de grand missionnaire, de grand serviteur ou de grande servante de Dieu, il y a une constante que vous allez voir apparaître tout partout. Et c'est toujours la même. Les gens qui ont eu une vie chrétienne remarquable sont toujours des gens qui examinent leur vie à vivre en fonction des deux extrêmes, des deux. En anglais, ils utilisent l'expression « ils vivent in the light of eternity ». Autrement dit, ils vivent à la lumière de l'éternité, que ce soit l'enfer d'un côté ou que ce soit le ciel de l'autre. Alors, quelqu'un qui fait des grandes œuvres, le Seigneur, faut absolument qu'il se garde ça toujours, toujours, toujours à l'esprit. Tu rencontres quelqu'un sur la rue, et cette personne-là, si elle n'est pas sauvée, il faudrait que tu vois que tu as une chance de lui annoncer l'Évangile, parce que si tu ne le fais pas là, peut-être que demain il va être trop tard. L'enfer, c'est un sujet effrayant. On l'a souvent qualifié d'horreur ultime de l'univers. Bien sûr, quand on commence à rentrer dans les détails sur ce que les Écritures disent de l'enfer, c'est vrai que c'est un sujet effrayant, vraiment effrayant. Alors, pourquoi s'y intéresser? Pourquoi vouloir en parler? L'auteur que je me sers, il s'appelle Don Arley, son prénom, je ne me souviens plus son prénom. Edward Donnelly, il a écrit un livre qui est Heaven and Earth. Hell. Heaven and Hell. C'est un excellent auteur et il raconte là-dedans que il dit, là, il a donné une série à un moment donné, il est allé dans une église, puis il a donné une série sur l'enfer. Il dit, il y a des gens qui m'ont dit, ah, Edward, où tu vas, là? Tu t'en vas aux États-Unis, à tel endroit, tu vas prêcher sur l'enfer. Tu vas prêcher sur quel sujet? Là, il leur dit, je vais prêcher sur l'enfer. Donc, les gens, ils ont dit, t'es-tu sérieux? Tu t'en vas dans une conférence, puis pendant 4 sermons, tu vas leur parler de ça. Il dit, n'est-ce pas une façon que les gens nous perçoivent quand on veut parler de l'enfer, comme les chrétiens, comme de quoi on est lugubre? C'est pas un sujet réjouissant, l'enfer. Mais est-ce que c'est parce que c'est pas réjouissant qu'on doit éviter? Alors, parler de l'enfer, c'est un sujet qui est déplaisant et nous sommes peu naturellement disposé à le faire. Juste pour vous donner une illustration. Chauvé depuis 1979, donc ça fait 34 ans que je suis chrétien. Puis dans toutes ces années-là, j'ai entendu un sermon sur l'enfer et c'était même pas dans une église, c'était quelqu'un qui m'a donné un enregistrement d'une conférence qu'il y avait eue en Pennsylvanie. Moi et Jean, une fois on descendait, on l'avait écouté. À quelque part, est-ce que c'est normal que pendant 34 ans, les deux, je dirais, le sujet le plus important de la vie, soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Il n'y a pas d'autre lieu. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Qu'on connaisse au moins l'ABC. Autre chose que je dois vous partager, c'est que en faisant mes lectures pour le sujet, je me suis rendu compte que c'est un sujet, faut voir ça comme un survol. 4 leçons, ça va être juste à peine pour qu'on effleure le sujet. On n'ira pas en profondeur dans rien. Je me suis rendu compte que quelqu'un qui voudrait faire une étude sérieuse et approfondie du sujet, ça demanderait au moins un an à temps plein juste sur l'enfer et un an à temps plein juste sur le ciel. Vous allez me dire, ouais, peut-être t'exagères un peu. Par exemple, juste le mot « Sheol », qui fait référence des fois dans les Écritures, soit au tombeau, ou à la tombe, ou à l'enfer. Mais comment on fait pour savoir comment traduire le mot « Sheol » C'est toujours par le contexte. Alors, si quelqu'un, il y en a qui ont pris le mot « Sheol » et ont dit, « Garde, dans certains cas, le mot « Sheol » veut dire « tombeau ». Alors, c'est comme s'il avait voulu évacuer l'autre signification du mot, et ça l'a amené les faux enseignements dans l'Église. Mais quelqu'un qui veut faire une étude sérieuse, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait dans les Écritures sortir toutes les instances où on parle de Moucheol. Regardez par le contexte, est-ce que ça parle du tombeau ou ça parle de l'enfer? Imaginez-vous le travail. Ça, c'est une affaire, là. Là, je pourrais vous en nommer plein d'autres. Alors, quelqu'un qui voudrait faire ça, à temps plein, disons 40 heures semaine, d'après moi, il y en a au moins pour 50 semaines, ça fait 2000 heures. Alors, pour étudier juste le sujet de l'enfer sérieusement, là, et en profondeur, ça demanderait 2000 heures. On va voir dans nos 4 leçons sur l'enfer qu'on va passer, quoi, à peu près 4 heures. Mais au moins, ça va nous remettre dans ce que les Écritures nous disent. Pourquoi on n'aime pas parler de l'enfer? Pourquoi on prêche si peu sur l'enfer? Je pense que c'est parce que réfléchir sur notre destinée éternelle, sur la destinée éternelle des damnés, ça nous attriste et ça nous effraie. Et ça nous remue profondément. Si quelqu'un écoute un sermon sur l'enfer, puis que ça le reste froid, il ne faut pas oublier ce que les Écritures nous enseignent. Les Écritures nous enseignent que toute personne qui vient au monde n'est pécheur, et à cause du fait qu'elle est pécheur, que la personne est pécheresse, alors ça lui mérite. Elle est déjà condamnée, et tout le monde, sans exception, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous connaissez ce verset-là. Ça veut dire que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un sur la rue, si la personne n'est pas réconciliée avec le Seigneur, ça veut dire que si elle décède là, S'il y a un char qui fonce dessus, ça en va directement dans cet endroit-là. Et la difficulté avec l'enfer, c'est que si tu vas là, tu ne ressors pas. C'est pour l'éternité. Alors, c'est pour ça qu'on n'aime pas nécessairement étudier ce sujet-là, parce que ça nous attriste, ça nous effraie, ça nous remue. On pourrait dire la vie est assez difficile comme cela. Pourquoi devrions-nous réfléchir sur un sujet aussi sombre et déprimant? La réponse est simple, parce que nous serons fortifiés spirituellement. Supposons qu'à la suite d'avoir entendu les sermons, on prenne conscience que c'est important de communiquer l'Évangile aux gens qu'on rencontre parce qu'ils ne sont pas sauvés. Si ça l'amène ça, est-ce que vous êtes plus fort spirituellement que vous étiez avant? Ben oui. La négligence de le faire, de parler de l'enfer, peut compromettre la destinée éternelle de nos propres âmes. Vous allez dire, de quoi tu dis là? Beaucoup, les Écritures nous parlent, je ne sais pas si vous avez déjà étudié ou je ne sais pas si Matthieu chapitre 7 vous a déjà interpellé. Matthieu chapitre 7, le Seigneur nous dit que les gens vont comparaître dans sa présence, et il y en a qui vont dire, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, Seigneur, et ils vont continuer. » Et le Seigneur va dire, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, le Seigneur, dans ce passage-là? Il est en train de nous dire qu'il y a des personnes qui utilisent son nom, qui se prétendent des chrétiens, mais qui ne le sont pas, parce que le Seigneur, il dit, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, maudit. » Alors, c'est la malédiction. Quand tu dis, si le Seigneur lui-même utilise le mot « maudit » face à une personne, il est en train de lui dire, « Tu t'en vas à l'enfer. » Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que dans une communauté, on est une communauté de personnes qui se disent chrétiens. Et c'est quoi le critère que le Seigneur nous dit pour qu'on puisse faire la différence entre un chrétien et celui qui se prétend chrétien? C'est quoi le critère qui est marqué dans ce chapitre-là? La réponse est simple, c'est l'obéissance. Et celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est un véritable enfant de Dieu. Celui qui se prétend un enfant de Dieu et que sa vie ne démontre pas de l'obéissance, ça peut tout simplement qu'il ne soit pas. Alors, quand je vous dis que étudier le sujet de l'enfer, ça peut compromettre la destinée éternelle de nous-mêmes, alors ça peut avoir pour effet qu'on se réexamine. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, ça nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Alors, on a intérêt, même comme chrétien, de prendre le sujet et de le considérer très sérieusement, parce que notre propre destinée éternelle en dépend. Et non seulement la nôtre, mais ceux qui nous entourent, nos amis, nos voisins, les gens qu'on rencontre sur la rue, plein de monde. N'oubliez pas non plus, quand on prie pour l'évangélisation dans le monde, on parle du Tchad, justement, on parle de Jackie Eno, le Tchad, elle est là. Et bien entendu, le fait qu'elle va traduire la Bible dans la langue de ces gens-là va contribuer à ce que l'Évangile soit répandu dans le pays du Tchad. Alors, elle fait un travail qui va avoir un impact sur la destinée éternelle de la tribu des Kéré au Tchad. Alors, le Seigneur se sert d'elle pour amener l'Évangile dans ce coin de pays, dans ce coin du monde. Alors, la négligence de ne pas parler de l'enfer, ça peut avoir un impact sur nos propres vies, parce que si on ne s'examine pas et on n'est pas des authentiques croyants, même si vous auriez été dans une église toute votre vie, vous auriez été au service à tous les dimanches, tous les mercredis soirs, puis que vous auriez eu une vie qui ressemble à celle d'un chrétien, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui se prétendent des chrétiens, comme on a vu dans Matthieu 7, qui se ramassent en enfer. Alors, c'est très important de réexaminer ces sujets-là. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de notre premier point. On voulait parler de l'enfer pour 3 raisons. La première, on avait parlé de son importance intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire c'est important en soi. Nous savons que tout dans la Bible est important. Cependant, certaines vérités sont plus vitales que d'autres. Bien entendu, une supposition que vous êtes ignorant sur le port du voile ou d'autres vérités comme ça qui sont importantes dans les Écritures, tout est important dans les Écritures. Mais certaines vérités sont plus importantes que d'autres. Alors, si on est ignorant sur certaines subtilités de la doctrine des anges, ou que nous ignorions certaines lois alimentaires de l'Ancien Testament, nous serons appauvris spirituellement, mais nous ne serons pas damnés. D'autres doctrines sont cependant essentielles et indispensables. Le pasteur puritain Richard Baxter, je ne sais pas s'il y en a qui a écrit le livre qui est bien connu, presque tous les pasteurs anglophones connaissent Richard Baxter parce qu'il a écrit en anglais, ça s'appelle « The Reformed Pastor ». Autrement dit, il a écrit une œuvre sur ce que devrait être le travail des pasteurs. Alors lui, à son époque, il exhortait fortement les pasteurs à prêcher principalement sur les doctrines qui ont une portée éternelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prêcher sur d'autres choses, mais il insistait fortement auprès des pasteurs. Prêcher là-dessus, c'est important, parce que leur destinée éternelle en dépend. Alors, ce sont des doctrines qu'il faut absolument connaître, et l'enfer est très certainement l'une de ces doctrines-là. Autre chose qui est importante, les Saintes Écritures nous enseignent que l'enfer fait partie du fondement de la foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a étudié Hébreu, dans le chapitre 6, des versets 1 à 2, on parlait de certaines doctrines qui sont des bases, qui sont des fondements, un solage. Quand on parle, quand on veut construire une maison, ça prend un solage. Parce que si vous n'avez pas de solage, ça risque que ça ne soit pas une maison trop solide. Les Écritures parlent des doctrines qui sont un solage. Alors, ça dit, c'est pourquoi, dans Hébreux 6, versets 1 et 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Les Écritures elles-mêmes utilisent le mot fondement. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, donc ça, c'est la repentance, de la foi en Dieu, donc le fondement, la foi, la repentance, la doctrine des baptêmes, donc on parle ici de la régénération, l'imposition des mains, de la résurrection des morts et la dernière du jugement éternel. Si quelqu'un fait une erreur sur d'autres affaires, ça peut être pas une portée éternelle, mais si tu fais une erreur sur l'enfer, c'est une base. Ça fait partie des croyances de base du chrétien. Alors, il ne faut pas se tromper sur ce côté-là. Alors, on pourrait illustrer l'importance de la doctrine quand on parle, on veut en parler à cause de son importance intrinsèque. Donc, on peut illustrer son importance de quatre façons. Premièrement, on pourrait dire le poids massif du témoignage de la Bible. Est-ce que la Bible, dans son ensemble, à la fois dans l'Ancien et à la fois dans le Nouveau Testament, nous parle de cette doctrine-là? Le sujet de l'enfer n'est pas quelque chose de mentionné occasionnellement dans les Saintes Écritures et dans des passages obscurs. Sachons que le sujet est très abondamment développé dans la Bible et qu'il y a plus de passages dans ces pages parlant de la colère de Dieu que de son amour. C'est surprenant, ça. On sera pas on vous avait posé la question avant de commencer le sermon. Est-ce que vous croyez que Dieu parle plus d'amour dans les Saintes Écritures qu'il parle de sa colère? Ben, si vous feriez une étude puis vous compteriez le nombre de versets qui parlent de la colère de Dieu dans les Écritures, il y a plus de versets sur la colère de Dieu que de son amour. Lors de sa venue sur terre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a plus parlé de l'enfer que du ciel. Cela peut paraître surprenant, mais c'est une réalité facilement vérifiable. Quand on était à Québec, des fois on allait sur les rues faire de la prédication de rue. Et ça arrivait à l'occasion qu'il y a des gens qui s'arrêtaient puis voulaient discuter. Moi, quand les gens s'arrêtent pour discuter, souvent ils voulaient partir sur toutes sortes de sujets, mais je les ramenais toujours à l'essentiel. Si tu meurs ce soir, ton âme va où? Alors je le ramenais au sujet de l'enfer. Là, il disait, oh, je sais pas, je pense que je vais au ciel. Ah oui? Fait que là, je commençais à discuter du sujet de l'enfer, et là, je lui disais, sais-tu que... Il disait, oh, l'enfer, ça n'existe pas. C'est un concept du Moyen-Âge. C'est dépassé. Puis là, je disais, j'avais ma Bible dans les mains, j'ouvrais ma Bible, elle est dans Matthieu 13, puis là, Jésus lui-même, là, c'est pas... même pas un apôtre, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parlait de ces notions-là de l'enfer. Et là, je lui faisais lire le passage, puis là, le Seigneur affirme dans le feu de la géhenne, je disais, est-ce que tu es en train de me dire que Jésus est un menteur? Jamais il osait dire ça. Parce que là, il voyait bien que le Seigneur Jésus lui-même. J'ai une liste à la maison, s'il y en a que ça les intéresse, là. Une liste de tous les versets que Jésus a utilisés dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, là. Et c'est surprenant de voir la quantité de versets. Alors, c'est pas... quand on dit que c'est le poids massif des Écritures, c'est commencer par Jésus lui-même qui l'a affirmé. Alors, Christ, on le sait, c'est l'amour incarné, il est plein de compassion, il est plein de miséricorde. Il parle cependant très fréquemment du jugement à venir et de l'enfer éternel. Même son titre de sauveur attire l'attention sur la réalité de l'enfer, comme je vous disais tantôt, quand on dit à quelqu'un, des fois comme chrétien, on utilise souvent le mot « ah, il est sauvé » ou « il n'est pas sauvé ». Mais quand on utilise le mot, est-ce qu'on réfléchit à ce que ça veut dire? On est sauvé de quoi? On est sauvé de l'enfer. Parce que nos péchés, selon les Écritures, quand on a la foi en Jésus-Christ, on croit que lui a accompli la loi à notre place dans ses deux aspects, l'aspect précepte, autrement dit, il a obéi à la loi, à la perfection, à notre place, et il a subi le châtiment qui aurait dû être le nôtre à notre place, encore une fois. Quand on a la foi en ça, bien, nos péchés sont pardonnés parce que lui, il les a payés. Il a payé l'équivalent des souffrances que ça aurait dû nous coûter à nous, c'est lui qui l'a payé. Et en plus, il a accompli l'aspect précepte de la loi. Autrement dit, Dieu exigeait de chacun de nous qu'on ait obéi à la perfection au décalogue. Le décalogue, c'est les 10 commandements. Est-ce que quelqu'un ici pourrait lever la main pour me dire s'il a obéi au décalogue toute sa vie, en tout temps, en toute chose, sans avoir manqué une seule fois? Personne. Alors, si c'est pas nous qui le fait, il faut que ça soit quelqu'un d'autre. La doctrine de la substitution, c'est Christ qui s'est substitué à nous en prenant la punition qui était la nôtre et en acceptant de faire ce que Dieu commandait concernant sa loi à notre place encore. Alors, à partir du moment qu'on croit, nos péchés, c'est pas nous autres, on n'a pas besoin de les payer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a payés à notre place. Ça, c'est important, saisir ça. Parce que la personne qui ne croit pas en Jésus, en ces deux aspects-là, elle, quand elle va décéder, Dieu va lui demander de rendre compte de tout péché qu'il a commis. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'on le pense, les péchés de pensée, de parole, d'action, et d'omission et des fautes secrètes. Et plus tu vas en avoir commis, plus ta punition va être sévère et va être proportionnée aussi à la quantité de péchés et à leur gravité. C'est sûr que si quelqu'un, dans sa vie, son principal péché, ça a été de mentir, c'est moins grave que quelqu'un qui a fait des meurtres. Alors, il y a une échelle dans la gravité des péchés. Le dernier livre de la Bible se termine par de très sévères avertissements. On va aller lire Apocalypse 21, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, ici dans le texte, les enchanteurs, c'est les personnes qui prennent de la drogue. Les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Apocalypse 20, versets 12 à 15. Ça, quand on allait dans la rue à Québec, c'était mon texte, j'utilisais ce texte-là extrêmement abondamment. Je le disais à chaque fois qu'on prêchait dans la rue. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'accorder tant de place à ce sujet dans les Saintes Écritures, si ce n'est que pour nous en indiquer son extrême importance? Ce fait seulement devrait nous amener à étudier sérieusement le sujet. Donc, on a parlé de quatre façons d'illustrer l'importance. La deuxième, ce serait le contenu de la doctrine elle-même. La Bible nous révèle l'existence d'un endroit de terrible tourment où des millions d'êtres humains sont emprisonnés pour l'éternité. Et j'aimais bien M. Donnelly parce qu'il donne des statistiques sur la quantité de personnes qui meurent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il dit qu'actuellement, d'après les statistiques, il y aurait 95 millions de personnes qui meurent chaque année. C'est du monde, 95 millions de personnes. Cela scelle irrémédiablement leur destinée éternelle. Quand quelqu'un meurt, sa destinée éternelle est scellée. Ou il va au ciel, ou il va en enfer. Sur 95 millions de personnes, il est fort probable qu'il y en a plus qui vont en enfer qu'au ciel, parce que le Seigneur a dit que peu trouvent le chemin. Alors, si on prend ces statistiques-là puis qu'on les remet en termes de quotidien, chaque seconde, 3 personnes meurent. 1, 2, 3. Il vient d'en sortir 3. Chaque heure, on est ici 1 heure, bien, pendant l'heure qu'on va être ici, il va y en avoir 11 000 qui vont mourir sur la terre. Chaque jour, 264 000. C'est du monde. Et chaque année, 95 millions. Alors, ça a de quoi nous faire réfléchir. Parce que quand on prend le journal de Rouyn-Noranda, puis qu'on s'en va dans les décès, si ces personnes-là ne sont pas sauvées, ils sont en enfer. Est-ce qu'ils ont été témoignés durant tout le temps de leur vie? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, nous avons la très grande responsabilité d'annoncer l'Évangile. Nous devons faire connaître aux gens qui nous entourent et aux hommes de toute la terre le seul et unique moyen de l'éviter, qui est la foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, ici, on va rajouter quelque chose qui est très important, et en lui exclusivement. Aujourd'hui, à cause de l'écuménisme, le phénomène qu'on appelle l'écuménisme, la tendance à ramener toutes les religions sous un seul chapeau, à quelque part, qu'est-ce que les Écritures nous disent dans Actes 4, versets 11 et 12? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. De qui on parle? En Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre que la personne de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devrions être sauvés. Nous devions être sauvés. Quand on pense à ça, on rencontre parfois des gens qui sont bouddhistes. On rencontre des gens qui sont toutes sortes de religions. Il y en a plein de religions. Et s'ils nous disent, à la fin de mes jours, je vais aller au ciel, et qu'on les interroge le moindrement, puis ils nous ne mentionnent pas la personne de Jésus-Christ, est-ce qu'ils sont sauvés d'après ce que les Écritures disent? Non. Troisième raison pour nous montrer l'importance, c'est notre proximité avec cette possible catastrophe. Ça, c'est quelque chose à nous faire réfléchir. Aucun être humain ne sait l'heure de sa mort et peut mourir à tout instant. Le grand pasteur et théologien Jonathan Edwards comparait les êtres humains à des personnes marchant nonchalamment sur un plancher de bois pourri, qui risquaient de céder sous leur poids à tout instant et de se retrouver automatiquement dans l'enfer pour l'éternité. Moi, quand la première fois que j'ai lu l'image, j'ai dit, c'est fort comme image. Tu t'imagines quand tu rencontres du monde, là, c'est comme ils marchent, là, puis ils sont peut-être à un cheveu de leur éternité, et c'est comme s'ils marchaient sur un plancher de bois pourri qui risque de s'effondrer sous eux à tout instant. Ça, quelque chose nous fait réfléchir. Alors, c'est le sort de tous les païens n'ayant pas fait la paix avec Dieu. Tout à l'heure, on parlait de Matthieu 7. Matthieu 7, 21 à 27. Moi, là, je me souviens, dans les premières fois que j'ai lu le Nouveau Testament, quand je suis arrivé sur Matthieu 7, c'est un passage qui me saisissait, qui me faisait peur. Parce que ça dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, » il parle du jour du jugement, « plusieurs me diront en ce jour-là. » Voyez-vous, la quantité de fois qu'il répète le mot « Seigneur », alors c'est parce qu'il prétend avoir la foi. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Qu'est-ce qui est... Moi, c'est un passage qui m'effraie. Ça ne vous effraie pas, là? Tu es en train de dire que tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur, ce n'est pas tout, nécessairement tous ceux-là qui vont se ramasser au ciel. Et le critère, c'est vraiment l'obéissance, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, il faut vraiment s'examiner parce que, comme on disait tantôt, imaginez-vous quelqu'un qui aurait été dans une église pendant 20 ans, disons. Tous les dimanches, il était là. Il va à ses soirées de prière. Mais il mène sa vie plus ou moins sans obéissance. Puis qu'il décède, puis s'en va en enfer. Imaginez-vous. Tout à l'heure, on parlait de responsabilité. Notre degré de punition va aller en proportion avec la quantité de lumière reçue. Quelqu'un qui était assis dans une église à tous les dimanches pendant 20 ans, il a reçu énormément plus de lumière qu'une personne dans le fin fond de la Chine qui a même entendu parler du nom de Jésus-Christ. Alors, sa punition va être plus sévère. Et, dernier point, pour nous montrer l'importance de la Bible, de l'importance de l'enfer, du concept de l'enfer, il y a un seul et unique moyen d'éviter l'enfer. La Bible est d'une clarté cristalline. Quand on voit dans Jean 3, 36, écoutez bien, c'est un verset important. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il ne dit pas aura. A la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais ici, on pourrait dire, mais je suis dans l'église. Alors, on parlait des gens qui... Il y a des gens qui disent qu'ils croient, mais que leur vie ne démontre pas l'authenticité de ce qu'ils croient. Alors, bien entendu, quand on dit qu'ils croient au Fils, ça veut dire une foi obéissante, une foi qui va se refléter dans ses gestes quotidiens. Bien sûr, croire au Fils implique plus qu'une simple adhésion intellectuelle à des vérités concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je me souviens très bien, en tant que j'étais à Sherbrooke, il y a un ami chrétien que je connaissais, son épouse, il parlait de son épouse, il dit, ma femme, là, elle connaît mieux la doctrine du ciel et de l'enfer que n'importe qui dans l'Église. Elle n'est pas sauvée. Il disait lui-même, elle n'est pas sauvée. Le fait de savoir des choses sur Christ qu'il est venu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il s'est incarné, qu'il a payé des péchés. Elle, elle savait tout ça, là. Le fait de savoir quelque chose, ce n'est pas une foi qui sauve. La foi authentique implique une vie d'obéissance réelle, une vie transformée et une vie sanctifiée. Quand on dit dans Hébreux, le Seigneur, sanctifiez-vous sans laquelle, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est en train de nous dire que si on ne se sanctifie pas, on ne verra pas le Seigneur. Une vie chrétienne qui est non sanctifiée, est-ce que ça se peut que ce soit une fausse vie chrétienne? Oui, ça se peut. Et c'est ça qui me fait peur. Hey, il y a des gens que j'ai lus dans des livres américains, des pasteurs d'expérience, là, qui disent, je viens d'en finir un, lui, il dit 10%, puis je n'ai lu un autre qui dit 15%. Ça, c'est des évaluations d'hommes, on ne peut pas se fier là-dessus. Mais juste le fait de considérer que possiblement, il pourrait y avoir dans une assemblée, disons, le 20%, mettons-la 50 même, puis qu'il y aurait des personnes qui sont dans des assemblées depuis des années, puis qui ne sont pas sauvées, ça vous fait-tu frémir un petit peu? Ça devrait nous faire frémir. Jacques 2, verset 14 et verset 17 à 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Là, je ne suis pas en train de vous prêcher le salut par les œuvres. Il dit, qu'est-ce que ça sert de quelqu'un de dire qu'il a la foi, mais que la foi ne se concrétise pas dans des gestes concrets du quotidien? Il dit, la foi peut-elle le sauver? Après ça, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça fait-tu peur, ça? Ça fait pas peur? Après ça, il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Deux termes qu'il utilise ici, morte, inutile. Ça devrait nous faire sonner des cloches. Deuxième point qu'on va regarder, à cause de l'envahissement, on se doit de parler de l'enfer, à cause de l'incrédulité envahissante qui est tout autour de nous. Notre siècle est un siècle caractérisé par l'incrédulité et l'apostasie. L'apostasie, c'est ceux qui prétendent avoir connu Jésus, qui, après un certain moment d'épreuve, lâchent tout et retournent dans le monde. C'est ça, l'apostasie. La réalité de l'enfer, aujourd'hui, est remise en question, déformée, dénaturée et ridiculisée. Satan est terriblement efficace pour répandre son terrible mensonge. Il trouve dans le cœur corrompu de l'homme irrégénéré un terrain fertile pour emprisonner l'homme dans ses illusions concernant sa destinée éternelle. On peut distinguer trois niveaux d'incrédulité. La première, je dirais, c'est la moquerie populaire. L'auteur du livre « Biblical Teaching on the Doctrines of Heaven and Hell » du pasteur Edward Donnelly raconte qu'il se rendit un jour dans une école pour assister à des sketchs de théâtre d'enfants. Vous savez, on a tout assisté à ces affaires-là, les enfants qui se déguisent comme une fleur ou comme toutes sortes de choses. Il dit en avoir apprécié l'événement jusqu'à ce qu'un bon nombre d'enfants apparaissent sur scène habillés comme des démons avec des cornes et des queues. Il dit, et en se tournant en rond sur la scène, les enfants, ils chantèrent une chanson joyeuse sur l'enfer qui la décrivait comme un endroit où les gens étaient rôtis. Alors, il dit qu'il était très mal à l'aise. Parce qu'un chrétien qui croit aux réalités de l'enfer, puis qui voit une caricature comme ça, puis qui voit que la réponse du public à une telle folie, c'est d'éclater de rire, puis de se tordre, il lui dit qu'il n'a pas trouvé drôle. Puis je n'aurais pas trouvé drôle non plus. Alors l'auditoire fut saisi d'un rire hilarant. Autrement dit, on trouvait ça bien drôle. Bien sûr, il fut profondément attristé par cette caricature inconsciente et méprisante. Ne voyons-nous pas ici un écho des déclarations de Christ sur de pareils gens? Matthieu 18, versets 6 et 7. « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Pour le monde, l'enfer est une farce. Les publicitaires et les restaurateurs utilisent impunément ce concept et les conversations des gens sont remplies d'expressions telles que « c'est l'enfer ». L'avez-vous déjà entendu ça? C'est l'enfer. Ils vivent une expérience difficile puis ils vont dire « c'est l'enfer ». Quand on entend ça, nous comme chrétiens, on devrait réagir. On devrait dire « je pense que ce que tu parles là, c'est pas l'enfer du tout, du tout ». Et les ramener à la réalité de l'enfer. Alors, l'enfer, pour décrire des situations pénibles et désagréables. Autre catégorie d'incrédulité, l'enfer est rejeté par les supposément penseurs de ce siècle et des autres siècles précédents aussi. Les personnes qui n'appartiennent pas à Christ sont spirituellement morts, que les Écritures nous disent. Ils sont aveugles aux réalités spirituelles et tous leurs processus mentaux sont altérés et déformés. Pour eux, l'idée de l'enfer est moralement dégoûtante et ils sont authentiquement offensés par elle. Ils crient à tous qui veulent les écouter que l'enfer est une invention inventée par une église tyrannique pour manipuler et terrifier ses adhérents naïfs et faciles à duper. Ils décrivent le concept de l'enfer comme étant une superstition moyenâgeuse et complètement dépassée. À quelque part, quand on regarde tout ce qui s'est véhiculé comme image de l'enfer, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de caricatures et beaucoup de fausses conceptions de comment le diable apparaît, la couleur, et toutes sortes de foleries qui ont été... Ils ont été véhiculés sur des images qu'on a faites de l'enfer qui ne sont pas nécessairement bibliques. Mais à quelque part, ça nous reste. Je me souviens quand j'étais jeune, mon frère Paul, le plus vieux, il est décédé maintenant, il aimait ça me faire peur avec l'enfer parce qu'il voyait que ça rejoignait une corde sensible. J'avais une dizaine d'années. Il disait, Marcel, l'enfer, là, il dit, tu rentres là-dedans, il y a une grosse horloge. Puis là, il me faisait des gestes, puis il disait, et sur l'horloge, ça dit « toujours, jamais, toujours rester, jamais sortir ». Et là, il me décrivait des scènes de l'enfer. Il voyait que ça faisait un effet. Il me terrorisait littéralement avec ses histoires d'enfer. Le philosophe humaniste Bertrand Russell, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, a écrit « je crois qu'il est impossible pour une personne qui est profondément humaine de croire à l'existence d'un endroit de punition éternelle. C'est une doctrine qui met la cruauté dans le monde et qui a contribué à torturer mentalement des générations d'hommes. » Voyez-vous les penseurs. Et là, on pourrait allonger la liste. Je prends Bertrand Russell parce que c'est un philosophe connu, là, mais on pourrait allonger la liste. Et encore pire pour l'incrédulité, là, on parle de gens, d'incroyants, donc on ne faut pas se surprendre de ça. Mais quand l'existence de l'enfer est menacée ou questionnée par des supposés théologiens qui se disent évangéliques. Oh, là, ça se complique un peu, là, parce que ces gens-là ont de l'influence. L'enfer a été cru unanimement par la très grande majorité des croyants pendant 1900 ans. Si vous regardez, là, pendant 1900 ans, c'était à peu près unanime chez les chrétiens que personne ne s'obstinait là-dessus. À partir du 20e siècle, plusieurs théologiens contemporains se sont détournés de l'orthodoxie biblique pour introduire des notions comme l'annihilationnisme. Autrement dit, l'annihilationnisme est en train de dire que tu vas aller pour une petite punition pour un bout de temps, puis après ça, Dieu va te détruire, puis ça va être fini. Les témoins de Jéhovah enseignent ça, et les adventistes du septième jour enseignent ça, et d'autres. Alors, l'aïnationnisme, c'est la croyance que les incroyants ne feront pas l'expérience d'une éternité en enfer, mais qu'ils seront plutôt anéantis après leur mort, après un moment de souffrance, là, mais ça ne dure pas pour l'éternité. Ça commence à se propager dans la société. Croire en l'annihilationnisme est le résultat d'une mécompréhension d'une ou de plusieurs des doctrines suivantes. La conséquence du péché, la justice de Dieu, la nature de l'enfer. Parmi les plus connus de ces évangéliques-là, on peut mentionner leur nom publiquement parce que leurs écrits ont été publiés publiquement. John Stott, qui est une personne connue en Angleterre, très connue en Angleterre. Il a beaucoup écrit. Il a écrit des choses que j'ai dans ma bibliothèque que je considérais valables. Mais à partir du moment où, moi je parle moi personnellement, à partir du moment que je vois qu'une personne se trompe et enseigne contre une doctrine fondamentale, moi, pour moi, là, c'est comme chier un X sur le livre. Je ne me sers plus de ça. Parce que je me dis, s'il n'est pas capable de faire la différence, s'il n'est pas capable de découvrir ou d'enseigner la vérité correctement, je suis très peu porté à utiliser leur matériel. John Stott, en est un. Philip Hoggies, ça aussi j'en ai un, commentaire à maison qui a fait sur 2 Corinthiens. Lui aussi a fait les mêmes, des déclarations publiques, des enseignements, des articles des journaux, des revues, des magazines américains, des magazines théologiques. Clark Pinnock, John Wenham. Pour eux, l'enfer est soit nié, soit ignoré, soit dilué ou soit traité comme une chose embarrassante. Quand les choses nous viennent de l'extérieur par des incroyants, il ne faut pas trop se surprendre de ça. Mais quand les choses viennent de l'intérieur de l'Église, des gens qui prétendent qu'ils sont croyants et qui commencent. Et influents, là. Si moi j'écrivais un livre. Pour nier l'enfer, je ne suis pas connu. Alors, j'aurais presque pas de portée. Mais quand quelqu'un qui est connu, lu internationalement et que ses livres sont distribués à des centaines de milliers de copies, oh, là, c'est au Seigneur qu'il va avoir à rendre compte. Parce qu'il influence des gens là-dessus. Il y a des gens qui vont changer d'idée, qui vont abandonner la doctrine orthodoxe, la doctrine réelle de l'enfer, et qui vont l'abandonner. Il ne faut pas oublier une chose. On est au milieu d'une grande guerre spirituelle. La doctrine de l'enfer est sous une attaque violente, à la fois de la part du monde et à la fois de certains membres éminents de l'Église protestante professante. Nous devons nous rappeler les mots du réformateur Martin Luther qui disait « Un bon soldat de Christ est celui qui s'est tenu debout au plus fort de la bataille et qui a courageusement défendu les vérités bibliques. » Ce n'est pas à cause que, comme qu'on disait dans le temps, tout le monde le fait le don. C'était comme une devise qu'on utilisait à la radio. Ce n'est pas à cause que les chrétiens autour de nous abandonnent puis qu'ils disent « ça n'existe plus, oh, puis ça ne fait pas mon affaire », que nous, il faut suivre. Alors, quand Martin Luther dit un bon soldat, c'est quand que la guerre est la plus forte. C'est là qu'il se tient debout et qu'il n'abandonne pas le combat. Troisième point qu'on avait parlé, l'anthropocentricité, la troisième raison, autrement dit l'humanisme. L'être humain est porté à se considérer comme le centre de l'univers, le nombril du monde. L'anthropocentricité, c'est la tendance à mettre l'homme au centre de tout et, ce faisant, prenant audacieusement la place de Dieu. Si tu places l'homme au centre, tu ne places plus Dieu au centre. Tu prends sa place d'une façon très audacieuse et blasphématoire. L'humanisme est un autre mot pour parler de ce blasphème. L'humanisme, c'est la théorie ou la doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. Le célèbre athée Ernest Renan, pas si nous qui sont déjà, ça sonne une cloche, c'est un philosophe français, Ernest Renan, qui a écrit sur la vie de Jésus et qui a fait vraiment un travail désastreux. Ernest Renan a orgueilleusement affirmé « La religion de l'avenir sera le pur humanisme, c'est-à-dire le culte de tout ce qui est de l'homme. » C'était un gars influent aussi, c'était un philosophe français qui était lu à son époque. Alors, c'est le péché qui fait tomber l'homme quand Satan dit à Ève dans la version d'Arby, « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Lors de sa chute, Satan n'a-t-il pas dit dans Ésaïe, chapitre 14, verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » La centralité de l'homme n'est-elle pas la racine des objections à l'enfer, incluant aussi les objections apportées par les évangéliques? Examinons trois évidences de cet esprit d'humanisme envahissant. Première évidence, une vision de l'homme centrée sur lui-même. La plus haute valeur de la société est présentée comme étant le bien-être absolu de l'être humain. Voilà la clé, le but de toute activité, la fondation sur laquelle est bâtie la civilisation. Les gens doivent être heureux. C'est ça l'humanisme. Par n'importe quel moyen. S'il faut que tu fasses un avortement pour être heureuse, vas-y. C'est ça l'humanisme. Lorsque la majorité de la population se laisse séduire par une pareille idée, l'idée même de l'enfer est rejetée catégoriquement et irréversiblement. Cette idée devient alors intolérable et ébranle tout le système fragile de l'humanisme. Les Écritures ne nous avertissent-elles pas de ne pas se laisser séduire par un pareil mensonge? Jérémie 17, versets 5 à 7. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Voyez-vous, on a exactement... Les chrétiens se confient dans l'Éternel, les gens veulent rejeter l'enfer parce que ça fait leur affaire que l'enfer ne soit pas là, parce qu'ils peuvent se confier dans l'homme et dire « on est capable de s'arranger tout seul, on n'a pas besoin de ça ». L'autre, c'est une vision du péché centrée sur lui-même. La vision du péché de l'homme moderne est tordue. Il voit au mieux le péché comme tout ce qui peut nuire ou faire mal au prochain. Le problème se situe dans les critères de ce qu'il considère comme faisant mal aux autres. Par exemple, des millions de bébés sont tués dans le ventre de leur mère chaque année. Notre société supposément civilisée accepte qu'on introduise des ciseaux dans le cou des fœtus, qu'on suctionne leur cerveau et qu'on écrase littéralement leur tête dans le sein de leur mère. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, des vidéos où qu'on nous montre. Moi, j'en ai des vidéos. J'ai les à la maison, si ça vous intéresse. C'est très, très, très déprimant à regarder. Et les êtres humains, aujourd'hui, font ça par centaines de milliers. Puis on considère ça normal. Bien, c'est pour le bonheur de la femme. Si la tendance se maintient, les hommes enlèveront la vie aux handicapés et aux vieillards, et favorisons le suicide assisté, n'est-ce pas qu'on commence à parler de ça de plus en plus au Québec, et l'euthanasie. Les hommes se dirigent allègrement vers un monde où l'horreur règnera, et tout ceci sous le couvert du bien-être des hommes. Les hommes accepteront tout ce qui peut paraître leur apporter du bonheur, régler leurs conflits, guérir leurs maladies, améliorer leur mariage, etc. Lorsque les hommes rejettent collectivement la loi morale de Dieu, le décalogue, le 10 commandements, comme définissant la notion de péché, comment on fait pour savoir quelque chose de péché? C'est le décalogue qui définit qu'est-ce qui est le péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. Alors, quand on abandonne ça, bien, à quelque part, c'est qui le définit le péché? C'est l'homme lui-même. Il pense qu'il est capable. Alors, ça dit dans Romains 3, 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Autrement dit, notre connaissance qu'on a du péché nous vient à cause des 10 commandements. Les 10 commandements sont là comme des gros miroirs pour nous montrer les fautes que les hommes font envers Dieu et les fautes que les hommes font envers les autres êtres humains. 1 Jean, chapitre 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi. On parle du décalogue, là. Et le péché est la transgression de la loi. Autrement dit, c'est toute désobéissance aux 10 commandements de Dieu. Troisième démonstration, une vision de Dieu centrée sur lui-même. La culture ambiante nourrit un esprit de cynisme où les sentiments de noblesse, d'honnêteté, de pureté et de générosité sont moqués et présentés comme faux. Il semble régner un goût pour le morbide et une attirance vers la corruption, la violence et le déni de tout bien. Les gens ont perdu de vue l'infinie sainteté du Seigneur, son imposante majesté, sa toute-puissance, sa souveraineté absolue, sa terrible justice et l'ensemble de ses attributs. Daniel 4, verset 35. « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main qui lui dise « Que fais-tu? » L'enfer nous parle de Dieu comme étant parfaitement au contrôle de tous les événements terrestres, comme faisant tout ce qui lui plaît, comme ne pouvant pas être manipulé, marginalisé ou ignoré. Les gens ne veulent pas d'un tel Dieu et ils bannissent toute doctrine qui leur semble une menace. Les croyants pensent différemment et de façon radicale. Apocalypse 11, versets 17 et 18. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Voyez-vous, les 24 vieillards, c'est, on pourrait dire, les représentants de tous les élus, de tous ceux qui ont vraiment cru en Dieu. Et eux, ils disent à Dieu, « Tu es juste de l'enfer, puis tu es juste du ciel. » Alors, ils ne remettent pas en question ces choses. Dans Apocalypse 15, versets 3 et 4, « Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car tu es seul, tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. » Trois applications rapidement. L'enfer est une terrible réalité. Nous devons d'apprendre à vivre constamment à la lumière de l'éternité. Je pense que c'est ça qui nous manque comme chrétiens modernes. Si nous le faisions, nous serions davantage à l'œuvre dans l'évangélisation. Nous nous examinerions nous-mêmes avec un plus grand sérieux pour savoir si nous sommes dans la foi et nous serions davantage la lumière du monde et le sel de la terre. Deuxième application, nous sommes en guerre. La doctrine de l'enfer est sous l'attaque du malin, du monde et même de certains évangéliques. Notre responsabilité est énorme. Nous devons dénoncer les erreurs et les mensonges de l'ennemi avec une grande vigueur et faire tous nos efforts pour préserver la vérité de Dieu. Les destinées éternelles en dépendent. Troisième application, soyons très vigilants pour ne pas nous laisser entraîner et submerger par l'humanisme ambiant. C'est une force beaucoup plus puissante que la plupart d'entre nous imaginent. C'est notre devoir le plus pressant de bien connaître les doctrines suivantes. L'anthropologie biblique, autrement dit, qu'est-ce que c'est l'homme selon les Écritures? Le péché, selon la Bible. Le salut, selon la Bible. Dieu, selon la Bible. Des erreurs graves sur ces doctrines peuvent être fatales et peuvent impliquer notre destinée éternelle. Implorons le Seigneur de nous éclairer, de nous fortifier et de nous rendre responsables face à la doctrine de l'enfer.